Marceau le matin.
Marceau le matin avec Jeff Fortin, Pascal CV et Max Larouche. Pour écouter nos meilleurs moments, ça se passe sur boulevardblvd.fm. Ça inclut aussi la web radio. Vous pouvez nous écouter à partir du bureau. Meilleure façon de nous écouter, l'application Boulevard BLVD 102.1 disponible App Store, Google Play Store. Vous pouvez venir nous voir également sur twitch.tv/blvd/fm. Pour interagir, 418-971-1021. D'ailleurs, Pascal, ça a interagi beaucoup avec la présence de Sol Zanetti dans nos studios.
Aujourd'hui, honnêtement, c'est une bonne journée au 418-971-1021. C'est sûr qu'on a eu M. Paradis, M. Zanetti. On a eu une conversation avec Denis qui était très humaine. On vous lit. Pour Sol Zanetti, il y a des gens qui se questionnent beaucoup sur l'économie. Hein. C'est quand même le point prioritaire. Quelqu'un qui dit « La société est plus riche. Pourquoi notre dette augmente-t-elle? Ça ne devrait pas être le contraire. » Quelqu'un qui dit « Je me demande comment je vais avoir plus d'argent dans mes poches si Québec solidaire veut l'imposer et taxer encore plus les multinationales. Si vous les taxez, ils vont augmenter les prix pour conserver leurs profits, d'après moi. » C'est des gens qui discutent beaucoup d'économie là, en ce moment, autant sur Twitch que par texto.
Exactement. À la météo, je vous rappelle, c'est moins 3 au maximum pour aujourd'hui. Généralement ensoleillé, 6 degrés de la pluie parfois forte, jusqu'à 50 mm de pluie en terrain montagneux demain. Moins 5 pour samedi, moins 3 avec de la neige pour dimanche. Il a écrit le livre « Anti-civilisation, pourquoi nos sociétés s'effondrent de l'intérieur ». On l'avait reçu justement dans Marceau le matin pour promouvoir son livre. Il est de retour en studio avec nous pour parler de financement des écoles privées. On a le bonheur d'accueillir Étienne-Alexandre Beauregard. Ça va bien, mon ami?
Ben oui, ça va très bien. Merci de me recevoir.
Hey, ça fait plaisir. Merci justement de m'avoir tendu une petite perche et t'hésites jamais. Ça nous fait plaisir de jaser politique et de jaser actualité avec toi sans l'ombre d'un doute. C'est un gros débat qui existe dans la société depuis énormément d'années. J'ai 46 ans et en secondaire 4, mon exposé oral de fin on peut pas appeler ça session là, au secondaire, là, de fin d'année, avec mon chum Pascal, c'était sur le financement des écoles privées et publiques. Oui, c'était ça notre débat.
Caline.
L'éternel retour.
Oui, l'éternel retour.
Fait qu'imagine, donc j'avais 15 ans, donc là 31 ans, on parlait déjà de ça. Est-ce qu'on doit arrêter le financement des écoles privées?
Par curiosité, ça avait donné quoi, ça, cette histoire-là?
Ça avait donné un excellent débat, une excellente note, premièrement, donc j'étais très fier.
Ben oui, disons-le.
Et un excellent débat. Et je devais défendre la position qu'il faut financer uniquement les écoles publiques. Et j'étais contre cette position-là. Fait que c'est difficile de se préparer à contre-argumenter quelqu'un quand tu sais que ce qu'il dit, t'es pour normalement. Alors, ça avait été tout qu'un exercice de théâtre, je vais le dire comme ça. Mais ça faisait déjà débat à l'époque. Ça fait encore débat à savoir si on doit continuer à financer nos écoles privées, surtout avec le fait que les écoles publiques, à l'heure actuelle, la crise de la main-d'œuvre, la crise d'enseignants, la crise de techniciens en éducation spécialisée fait rage. Tu as fait une étude là-dessus, Étienne-Alexandre. Donc, j'imagine que c'est un peu pour ça, parce que ça traîne dans l'actualité depuis plusieurs années.
Ouais, puis, ben, je vais te dire, Jeff, c'était la première étude, en fait, que j'ai faite dans mon nouvel emploi à l'Institut Cardus, qui est un think tank qui étudie les politiques publiques pour prendre position, en fait, dans des enjeux comme celui-là. Puis moi, c'est quelque chose qui me turlupinait depuis longtemps. C'est-à-dire que je vois qu'il y a, beaucoup d'intérêt, un intérêt renouvelé autour de cette question-là. Québec solidaire, le Parti québécois ont pris position contre le financement des écoles autonomes, veulent, en fait, forcer ces écoles-là soit à devenir des écoles de quartier, à accepter 100% de financement de l'État, mais perdre en fait la capacité de sélectionner des élèves, puis que les gens perdent la capacité aussi de choisir leur école, ou en faire des écoles super élitistes par la force des choses, parce qu'avec 0% de financement, ben là, ton frais de scolarité pour ton enfant par année, c'est plus 3 000 à peu près, ça devient 10-12 000. Fait que c'est un peu ce dilemme impossible-là qu'on veut imposer aux écoles privées, aux écoles autonomes. Puis nous, le pari qu'on a fait, c'est de regarder un peu c'est quoi vraiment la situation, t'sais? Qu'est-ce qu'il y en est, puis pourquoi est-ce qu'on gagne en fait d'avoir une pluralité d'options au Québec. Puis, fait que c'est ça un peu le sujet de l'étude pour renverser un peu la tendance sur ce débat-là où il y a beaucoup de choses qui se disent, mais qui ne sont pas toujours vraies puis qu'on n'entend pas toujours l'autre côté de la médaille.
J'aime ta notion de choix. C'est super intéressant parce que moi, j'ai des amis d'enfance. Je viens de la Basse-Ville de Québec qui habitent encore là, qui ont racheté des maisons familiales. Puis, j'ai les deux choix dans ma gang d'amis qui s'entendent très bien. Le choix de dire non, moi, je vais à l'école publique parce que, justement, avec les salaires qu'on a, j'aurais pas les moyens d'envoyer mes enfants à l'école privée. Puis, je fais confiance à mon école publique. Mais dans le même quartier, j'ai deux autres amis d'enfance qui, eux, se sont dit hey, non, 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 moi, je fais pas confiance à cette école-là. Puis, je vais investir, justement, dans l'éducation de mon enfant et ils vont aller à l'école privée. Cette notion de choix-là, est-ce qu'elle est importante dans ton étude?
Bien, oui, parce que le principe de base que nous, on met en fait au centre du système d'éducation au Québec, quand on le regarde, il y en a beaucoup qui disent, on entend des gros mots, là, tu sais, école à trois vitesses, ségrégation scolaire, ça en particulier, je trouve ça très fort. Mais dans les faits, c'est un système qu'on pourrait dire pluraliste. T'sais, quand on regarde, mettons, les théories sur la structure des systèmes d'éducation, le rôle fondamental du gouvernement en ce moment, c'est d'abord de définir qu'est-ce qui doit être appris, ça c'est important, de financer en tout au public ou en partie dans le réseau autonome, mais pas toujours de livrer l'éducation, parce qu'on reconnaît qu'il peut y avoir justement des communautés qui décident de lancer des écoles. La plupart des écoles privées du Québec, c'est des écoles qui étaient historiquement chrétiennes, catholiques. On s'entend, tu regardes ici le Collège Jésus-Marie, les Maristes, Saint-Charles-Garnier, où moi je suis allé, c'est beaucoup ça. Puis c'est de dire qu'il peut y avoir une place aussi pour justement des initiatives différentes qui vont souvent mettre en place des programmes qui vont être différents, parce que c'est dire que tous les enfants ne peuvent pas forcément apprendre de la même manière, que c'est normal aussi qu'il y ait différents besoins pour répondre justement à différentes demandes. Puis on peut regarder aussi, il y a beaucoup, quelques écoles au Québec, il y en a à peu près 12 ou 14, qui accueillent plus de 4000 enfants qui sont handicapés, qui ont des besoins particuliers. Et ça, c'est l'idée aussi de dire que, ben, en fait, est-ce qu'on servirait vraiment ces enfants-là si on les met juste dans la même classe au public régulier parce qu'on veut donner absolument tout pareil à
excellent
tout le monde, ben, on ne gagne pas forcément. Puis ça, d'ailleurs, c'est des écoles qui sont financées à 100% par le gouvernement, même si elles sont autonomes, privées, parce qu'ils reconnaissent l'utilité de ça. Mais dans le fond, le point général, c'est de dire, est-ce qu'on sert vraiment si on fait du one size fits all, un peu comme au magasin de vêtements, là?
Oui, bien assurément, il y a des enseignants qui le déplorent, surtout par manque de main-d'œuvre. Parce que quand on avait parlé de ce plan-là, il y avait la main-d'œuvre qui allait suivre. Finalement, on s'est rendu compte que c'était bien beau l'imaginer, fantasmer là-dessus. Il n'y avait pas cette main-d'œuvre-là, il n'y avait pas les budgets pour les payer, ce qui a créé beaucoup d'inégalités puis une impossibilité d'avancer dans les classes pour chacun. Tu sais, je veux dire, quand tu as un parcours régulier, habituellement, tu es capable de suivre la ligne. Là, avec des gens qui ont des difficultés, qui ont des plans d'intervention, s'il y en a un qui se désorganise dans la classe, l'enseignant est pris tout seul avec tout le monde, dont la personne qui est en train de se désorganiser, qui est un enfant. Est-ce qu'on devrait reculer là-dessus ou s'ajuster?
Écoute, moi, je pense qu'une situation qui est intéressante en ce moment puis qu'on discute assez peu par rapport à la structure du réseau, parce qu'on entend beaucoup « Ah oui, tu sais, le privé, c'est élitiste, puis c'est juste ça, etc. » prennent pas assez en charge les enfants à besoins particuliers. Mais moi, en faisant la recherche, justement, une statistique sur laquelle je suis tombé, que j'avais jamais entendue dans les médias avant, c'est que depuis 10 ans, quand on regarde dans le réseau autonome, justement, il y a une hausse de 200% des élèves HDA, donc avec besoins particuliers, alors que dans le réseau public, c'est de 30%. Fait que là, on voit clairement qu'il y a, en proportion, un changement qui se fait. Puis le palmarès des écoles du Journal de Montréal le montrait aussi qu'il y a de plus en plus d'écoles autonomes qui adaptent leur offre, même s'ils n'ont pas la bonification par tête de pipe pour les enfants à besoins particuliers qui existent dans le public. Fait que même s'ils n'ont pas l'incitatif direct, ils le font quand même. Puis un exemple que je trouve vraiment intéressant ici, par exemple, c'est le Collège Champigny qui, pour le secondaire, offre de le faire en 5 ans comme c'est la norme, mais aussi de le faire en 4 ans, mettons que tu es un bolé et que tu veux aller plus vite, ou en 6 ans, mais pas en redoublant une année, avec un parcours qui est adapté et qui est pensé pour ceux qui ont besoin de plus de temps.
Donc, on étale sur 6 ans ce qu'on aurait vu en 5 ans.
Exactement. Puis avec un soutien particulier, avec quelque chose qui est pensé justement pour les enfants qui ont des besoins différents.
C'est ça, tellement intéressant.
C'est ça. Puis on verrait malheureusement pas ça dans un système qui est trop standardisé. Fait que nous, ce qu'on dit en fait, c'est que la richesse qui peut venir d'avoir des institutions autonomes, c'est qu'on peut moduler, qu'on peut faire des nouveaux programmes. Puis quand on regarde, loin d'une idée de ségrégation où les deux systèmes sont séparés, en fait, il y a vraiment un dialogue entre les deux parce qu'il y a des programmes, on pense aux arts-études, on pense aux sports-études qui ont commencé dans des institutions autonomes puis que maintenant, le public s'est approprié puis c'est tant mieux parce que les parents, les élèves, ils recherchent ça. Puis quand on regarde les statistiques du ministère de l'Éducation aujourd'hui, il y a 50,9% des élèves du secondaire public qui sont dans un programme particulier. Ça, moi, je trouve que c'est une formidable nouvelle. T'sais, de dire justement qu'on est capable aussi de faire une place pour le pluraliste, une place pour des options différentes à l'intérieur du système public. Moi, j'ai l'impression que c'est vers ce modèle-là, au moins, qu'il faudrait aller, d'offrir plus d'options pour plus de besoins, plutôt que d'essayer de resserrer l'offre en pensant que ça va vraiment répondre aux besoins.
T'sais. Non, en effet, parce que moi, j'adore le fait de faire le secondaire en 6 ans. Je suis certain qu'on va venir sauver énormément de décrochages scolaires de cette façon-là, surtout chez nos jeunes garçons. Puis moi, je le dis là, très ouvertement, là, mon Édouard qui est en secondaire 4, sans football, je ne sais pas s'il a son diplôme d'études secondaires.
Ah oui, à ce point-là,
ah, c'est sa gang de football qui le motive. La gang étudie ensemble. Il me parle toujours de ses résultats parce qu'il veut tellement être au football l'année prochaine encore. Donc, c'est sa source de motivation première.
Qu'est-ce qui a changé dans la tête des jeunes? T'sais, puis là, on est comme 3 générations autour de la table. À partir du moment où certains allaient à l'école, puis c'était... ça allait de soi, faut aller à l'école, ça fait partie de notre travail de jeune, tiens, à devoir chercher des motivations extérieures qui sont, je veux dire, c'est de la vertu, là, être dans une organisation sportive, mais qu'est-ce qui a changé pour avoir besoin de double motivation?
Bien, d'abord, il faut dire quand même, le taux de décrochage, il n'a pas augmenté dans les dernières années. Là, je veux dire, c'est pas comme s'il y avait une grande baisse de motivation. Après, moi, je vois ça quand même d'un bon œil aujourd'hui, qu'on ait peut-être la sensibilité ou la maturité de regarder où est-ce qu'il y a des besoins différents, peut-être qui ne sont pas accommodés ou que le système de base répond mal à ces besoins-là. Puis Jeff, tu parlais des garçons. C'est un peu... à une époque, c'est un tabou. Là, on commence à en parler davantage, puis c'est tant mieux de dire que le taux de décrochage des garçons est exponentiellement plus élevé que celui des filles. Pourquoi? Bien, peut-être parce que les garçons, ils ont besoin de bouger davantage en général. Fait que là, c'est l'intérêt. Hey, est-ce qu'on peut avoir du sport-études? Est-ce qu'on peut avoir des programmes différents? Puis c'est drôle parce que même le Conseil supérieur de l'éducation, qui est souvent assez critique de la structure actuelle du réseau, ils en ont quand même parlé dans un rapport en 2010 où il disait, pour nous, un réseau plus inclusif, c'est un réseau qui a davantage d'offres pour davantage de besoins différents. Parce qu'on regarde qu'il y a des clientèles particulières, notamment les garçons, qui réussissent moins bien dans le système standardisé. Fait qu'à ce moment-là, si on veut offrir des chances égales à tout le monde, on a le devoir aussi de moduler notre offre parce que le système justement standardisé, bien, est-ce qu'il est pensé pour tout le monde ou est-ce que justement il y en a certains qui réussissent mieux par tempérament, etc., dans ce modèle de base-là? Fait que je pense que c'est là que c'est intéressant quand on est capable de moduler l'offre pour faire en sorte que ceux qui ont des besoins différents, qui sont moins bien répondus, aient chaussures à leurs pieds.
En effet, t'as entièrement raison. 750 millions de dollars proviennent de la contribution des parents. Donc ça, c'est un 750 millions de dollars que le réseau, que le gouvernement n'a pas à mettre avec un déficit de 13,5 milliards. Ça se prend bien. Est-ce qu'on est plus gagnant au change, justement? T'sais? Puis là, ma question va dans ce sens-là. Est-ce que si on créait plus d'écoles autonomes, finançait une certaine partie par le gouvernement, finalement, au bout du fichier Excel, on redeviendrait gagnant avec les millions de dollars investis par les parents?
Bien, écoute, je suis content qu'on aille sur cette question-là parce qu'un des mythes qu'on entend souvent et qu'on voulait déconstruire avec cette étude-là, c'est l'idée que ça nous coûterait quelque chose de financer les écoles autonomes, puis là, hey, on ne veut pas payer pour ça, etc. Mais je pense que ce qu'il faut se rappeler quand même, c'est que, par exemple, si toi, tu payes 100$ en impôts qui vont dans le système d'éducation, que tu envoies ton enfant dans une école autonome, le gouvernement te redonne seulement 60$. Puis toi, tu acceptes de mettre 40 de plus, et donc le reste, il reste dans le réseau public. Fait qu'il... plus il y a des enfants qui vont dans des écoles autonomes avec un financement en dessous de ce que leurs parents payent en impôts, plus il reste de l'argent pour le réseau public. Fait que c'est pas vrai qu'il y a une compétition sur le plan financier. Puis c'est pour ça, là, c'est une étude de la Fédération des établissements d'enseignement privé qui le met à jour un peu pour voir le calcul en fonction des gens qui payent, combien est-ce que le gouvernement a à cause de la contribution parentale. Là, on est à 750 millions. Puis d'ailleurs, quand le gouvernement fait des études ponctuelles sur comment régler le déficit, etc., qu'est-ce qu'on pourrait faire? La commission de révision des programmes, la dernière fois, qui se sont penchés sur le financement de l'éducation, ils ont dit de grâce, touchez pas au système actuel parce que sinon, il y aurait justement plusieurs centaines de millions qu'il faudrait trouver. Fait qu'à ce moment-là, est-ce que ce serait d'augmenter les impôts de tout le monde ou de couper dans les services qu'on peut se permettre en ce moment parce qu'il y a des parents qui décident de financer doublement? Puis, une autre question qui est intéressante, c'est voir comment est-ce qu'on pourrait avoir plus d'initiatives comme ça. Parce que quelque chose que j'ai découvert en faisant la recherche, je ne le savais pas, depuis 2008, le ministère de l'Éducation ne donne plus de nouveaux agréments pour des écoles privées
autonomes. Fait qu'on ne peut plus créer de nouvelles écoles.
Bien, tu peux le faire, mais les parents qui vont envoyer leurs enfants à ton école n'auront pas une token de subvention. Fait qu'il va falloir qu'ils payent 100% même s'ils payent déjà des impôts full pin comme tout le monde.
OK, donc.
Fait qu'à ce moment-là, est-ce que ça ne serait pas intéressant justement de permettre ça? S'il y a une communauté qui décide de se prendre en main, s'il y a des gens qui ont des enfants qui ont un besoin en particulier, qui disent « Hey, est-ce qu'on peut lancer une école pour répondre vraiment à un besoin? » Bien, ça serait le fun au moins que tu aies un appui du gouvernement. Puis à ce moment-là, une époque quand même où les écoles publiques débordent, il faut le dire, ça permettrait aussi de ben, d'offrir plus de choses et de redistribuer aussi dans le réseau. Là,
clairement, je vois, là, je lance une idée en l'air comme ça, mais je verrais une école autonome créée pour justement accueillir les nouveaux arrivants. On parle de problèmes d'immigration. La francisation.
D'après moi, ça serait complexe faire ça.
Oui, mais tu sais, je lance une idée en l'air comme ça.
Oui, non, mais pour mieux les prendre en charge, parce qu'effectivement, il y a une enseignante que je connais qui me dit à un moment donné, dans sa classe, elle a eu quelqu'un qui ne parlait pas français. Et il fallait qu'elle traite cet enfant-là de la même manière qu'elle traite les autres. Mais l'enfant faisait juste pleurer toute la journée, qu'on prenait rien, puis t'es au niveau primaire. Donc, ça devait être extrêmement difficile pour cet enfant-là de se sentir, un, intégré, puis deux, d'améliorer son parcours scolaire. Là.
Je sais que c'était pas l'objet de l'étude, mais je te pose cette question-là quand même en terminant, parce que moi, j'ai stické sur le 750 millions. Là, c'est mes anciennes jobs là, de financement dans les organismes communautaires qui font ça. Si j'appliquais ce modèle-là en santé, j'aurais-tu au bout de la ligne également un gain au niveau financier?
Ben écoute, ça, honnêtement, c'est une bonne question. C'est sûr, nous, c'est pas quelque chose qu'on étudie à l'Institut Cardus, le financement du système de santé. Mais je vais quand même dire ça. Nous, on pense en général que plus ça part de la base, plus c'est proche de la société civile, plus une institution est capable de répondre aux besoins de communauté.
Mm-hmm.
Fait que, on pourrait sans doute dire que beaucoup des problèmes du système de santé, comme pas mal des problèmes du système d'éducation en ce moment, viennent du fait que c'est très centralisé. C'est quand ça part du haut, puis là, en plus, quand tu as beaucoup, justement, une structure administrative au-dessus, ça se peut aussi que, d'un moment donné, tu aies une déconnexion avec la base, que tu ne réponds pas toujours aux besoins.
Aux besoins.
Fait que, justement, tu sais, quand on a un modèle comme ça où l'argent suit l'enfant, dans le cas qui est le nôtre, ou le patient, mais des fois, c'est plus facile aussi si tu vois qu'il y a un besoin, par exemple, à Québec, si qui n'est pas comblé, bien, un médecin, un infirmier, etc., peut dire « Hey, moi, je vais lancer mon affaire puis je vais répondre à ce besoin-là parce que je sais qu'il y a plein de monde qui ont un besoin où il n'y a pas de service pour ça. » Fait que quand tu es capable, justement, de décentraliser un petit peu, de rapprocher ça du plancher des vaches, c'est sûr que tu peux avoir des initiatives spontanées qui vont être intéressantes, qui vont être à échelle humaine puis qui vont aider vraiment les gens.
Oui, exactement. Étienne-Alexandre Beauregard, merci infiniment pour ta présence en studio avec nous. C'était super apprécié. C'est un bon débat. Je vous le demande également. 418-971-1021. Vous en pensez quoi de notre discussion? On va revenir avec des textos là, après la pause. Est-ce que vous êtes pour ou contre le financement des écoles privées? Moi, j'étais pour à 15 ans. Je suis encore pour à 46 ans. J'ai pas changé d'un iota parce que, oui, je trouve qu'il y a des considérations financières importantes pour l'État, mais surtout, je suis pour une liberté de choisir chez les gens, justement. Quand tes parents, tu veux le mieux pour ton enfant, puis bien, c'est à toi de décider où tu vas envoyer ton enfant. Un programme particulier dans une école publique, une école privée. Donc, je pense qu'on doit demeurer avec ce choix-là en tant que parent pour nos enfants. Merci beaucoup de ta présence avec nous aujourd'hui.
Merci à vous deux.
On se refait signe, ça va nous faire plaisir d'avoir d'autres discussions intéressantes comme ça en ondes. Après la pause, on parle avec le Père Noël en personne. Marc Nadeau de Passe-temps 3000 va nous parler des nouveautés, de ce qu'il y a dans son magasin. Pour la période de Noël, vous êtes comme moi, normalement. Vous n'avez pas encore fait vos achats de Noël.
T'as pas eu le temps, c'est normal.
Non!
Non?
Cette année, c'est fait.
Ah, c'est pas ça que tu dis
mes
normalement.
Mes garçons m'ont félicité normalement.
Tes garçons t'ont félicité d'avoir acheté les cadeaux en avance.
Oui, parce
ça,
que d'habitude,
c'est drôle.
D'habitude, je travaille le 24 au matin. Ouais, à partir de 10h, je serais allé magasiner. Mais là, comme je vais faire du bénévolat à la Boucherie généreuse, mon 24 était pris.
Bravo, Jeff.
Alors, je me suis pris la semaine dernière.
Tu vas être beaucoup plus reposé en plus pour ton temps des fêtes.
Mais je sais qu'il y a plein de gens qui étaient comme moi avant parce que là, j'ai changé.
Ah oui, pour... ça va-tu tenir, ça?
Marc Nadeau, après la pause, va tout vous régler ça en deux temps, trois mouvements. Vous allez pouvoir passer à Passe-temps 3000. Après ça, les cadeaux de Noël vont être faits. C'est ce qui suit à l'émission Marceau le matin sur Boulevard 102. Marceau